Panorama économique.
Bonjour messieurs et dames, bienvenue à ce nouveau numéro de Panorama économique sur votre radio. Les titres pour commencer. La Direction générale des impôts province du Kasaï occidental et les femmes marchandes de Kananga se sont accordées de payer d'abord l'impôt de 50 000 francs congolais à titre d'impôt forfaitaire sur le revenu, et ce en attendant que l'affaire ne soit traitée par l'Assemblée nationale. Mais dans l'entretemps, à Idiofa, dans le Bandundu, la DGI se plaint du refus opposé par les petites entreprises. Nous revenons également sur les vols de plaques d'immatriculation de véhicules dans le territoire de Mahagui, en province orientale. Ces plaques serviraient à faire passer frauduleusement les véhicules importés au niveau des postes frontaliers. Objectif, éviter les services douaniers. C'est la rentrée des classes et les prix des biens scolaires sont en hausse sur les différents marchés du pays. L'achat obligatoire des objets classiques dans les écoles, interdit par exemple à Kinshasa par le ministère de l'EPSP, semble ne pas être observé par le promoteur d'école. Voilà pour les titres. Devant le micro, Daniel Tambinzoni et François Kadima pour vous retracer la rétrospective de l'actualité économique de cette semaine sur votre radio. Faute de temps, notre invité n'a pas pu nous joindre dans ce studio. Changement de dernière minute dans son agenda, et cela ne nous empêche pas de vous présenter votre émission. Encore une fois, vous êtes les bienvenus. François, bonjour.
Bonjour Daniel.
Et bonjour à vous, chers auditeurs.
Panorama économique, le dossier.
Et nous allons commencer la rétrospective de l'actualité économique de cette semaine par ce compromis autour du paiement de l'impôt forfaitaire de 50 000 francs congolais sur le bénéfice.
Daniel, la Direction générale des impôts, Direction provinciale de Kananga et les femmes marchandes se sont accordées de payer d'abord cet impôt de 50 000 francs congolais, et ce en attendant la réaction de l'Assemblée provinciale, l'Assemblée nationale, aux revendications des assujettis. Le compromis est issu de la rencontre initiée mardi par le directeur provincial de la DGI. Justin Milonga estime que c'est à la hiérarchie que revient la dernière décision. Il est au micro d'André Kambala Moujianaï.
J'ai fait parvenir les orientations de ma hiérarchie, et à leur niveau aussi, ils ont accueilli cela avec chaleur. C'est que l'impôt devra être payé, quitte au gouvernement provincial de proposer au gouvernement central certains amendements pour la révision peut-être à la baisse, au cas où cela devenait une nécessité. Mais sinon, d'un commun accord, nous avons dit que cet impôt doit être payé. La catégorisation n'émane pas de la volonté d'un directeur provincial et même pas aussi de mon directeur général. C'est le problème de la loi, et notre hiérarchie va peut-être soumettre à la compétence de la hiérarchie parlementaire ainsi que du gouvernement central quelque chose pour qu'on voie si on peut revoir cela à la baisse, ou ça peut aussi être maintenu ou revu à la hausse.
La semaine dernière, les deux parties s'étaient d'abord retrouvées autour du gouverneur de la province. À l'issue de cette première réunion, les marchands avaient montré à l'autorité provinciale que le montant exigé dépassait leur chiffre d'affaires. Et en réponse, le gouverneur avait promis de saisir sa hiérarchie sur la question.
Toujours au sujet de l'impôt forfaitaire sur les bénéfices, la DGI Bandundu se plaint du refus opposé par les petites entreprises d'Idiofa qui déclarent n'avoir pas de recettes suffisantes. Le chef des centres d'impôt synthétique s'est exprimé mardi devant la presse en affirmant que 67 assujettis sur 83 ne sont pas en règle avec l'impôt.
Autre chose maintenant, nous avons parlé des vols de plaques d'immatriculation à Mahagui en province orientale. Mais à quoi serviraient ces plaques volées, François?
Ils serviraient à faire passer frauduleusement les véhicules importés sans payer les frais des douanes. Des sources locales affirment qu'en l'espace d'une semaine, 8 paires de plaques d'immatriculation véhicules ont été volées. Et d'après les autorités du territoire de Mahagui, ces plaques volées servent à faire traverser les véhicules importés à travers la frontière ougando-congolaise sans être soumis aux opérations douanières. Le contrôleur de prise en charge à la DGDA, Mahagui, affirme avoir intercepté quelques récalcitrants. Michel Maswaki est au micro d'Antoine Ouringui de la radio communautaire La Colombe, Mahagui.
À la frontière, les plaques d'immatriculation
immatriculations sont contrôlées. Personnellement, nous avons arrêté un cas d'une voiture qui est d'ailleurs dans l'entrepôt, qui avait une plaque d'immatriculation congolaise, mais qui était pratiquement sous douane, mais on a mis la plaque d'immatriculation congolaise pour essayer d'effleurer la douane, mais nous avons mis la main dessus, le véhicule s'ouvre dans l'entrepôt. Et nous avons établi un PV pour ça. Un PV d'infraction en matière douanière, c'est une importation sans déclaration. On va payer les droits et les amendes. Nous avons établi un PV que nous avons transmis à l'autorité au niveau des Kisangani. Tout le monde doit veiller sur ça. Nous autres, à la frontière, nous sommes en train de veiller. Les services de sécurité sont en train de veiller. Il y a la police des frontières, il y a l'ANER, il y a les services de renseignement militaire qui nous aident pour ça aussi. Quand ils ont des informations, nous donnent des informations. Nous rendons sur place. Et dans les milieux de Mahague, il y a plusieurs pistes qui ne sont pas bien contrôlées parce que, compte tenu des effectifs que nous avons, mais nous faisons l'essentiel pour pouvoir endiguer cette fraude-là. Nous informons nos collègues de Gounia qui veillent aussi sur ces cas de voitures qui passent avec des plaques. Parce que nous échappons au niveau de la frontière, mais au niveau de Gounia, ne peuvent mettre la main dessus.
Notre reportage sur la rentrée des classes, et vous le savez probablement, le gouvernement a interdit la vente d'uniformes et autres fournitures scolaires dans les écoles. Et pourtant, sur terrain, cette pratique continue. Les parents se plaignent même des prix élevés de ces objets par rapport à ceux vendus dans les marchés. Nous avons relevé cette situation à Bumba, dans la province de l'Équateur, et à Kinshasa, la capitale. Mais nous allons faire le compte rendu de la situation de la rentrée des classes à Kinshasa. Et c'est un reportage signé François Kadima.
Dans la plupart des écoles où nous sommes passés, notamment à Gombe Kassavubu, pour inscrire ou confirmer l'inscription de son enfant, les parents doivent acheter l'uniforme à 14, 15, voire 16 000 francs congolais, alors que sur le marché, un complet d'uniforme coûte environ 7, voire 8 000 francs congolais. À cela, ajoutez une tenue de gymnastique qui revient généralement à 6 000 francs congolais, mais qu'il faut acheter à 12, 13 et 14 000 francs congolais dans ces écoles. Et comme chaussures, les lycéennes sont obligées de débourser 10 000 francs congolais pour les sandales en plastique vendues à environ 3 000 francs congolais dans le point de vente de la capitale. Faute de souscrire à cette démarche en payant ce frais, votre enfant ne sera pas admis à l'école. Certains responsables des écoles soulignent que les prix des fournitures scolaires ont été discutés avec les comités de parents avant d'être fixés. Selon eux, leurs uniformes vendus sont avantageux parce qu'ils portent le cachet de l'école. Mais la plupart des parents rencontrés s'inquiètent de ce système qui continue à s'appliquer dans les écoles et ils ont du mal à réunir ce frais qu'ils jugent exorbitant. Le gouvernement devait, pour accompagner sa mesure, envoyer les inspecteurs dans les écoles pour interdire cette pratique, disent-ils, car elle s'est fait même en cachette. Signalons que le ministre de l'EPSP avait interdit la vente des objets classiques dans les écoles pour justement éviter la fixation élevée de prix de ces fournitures scolaires dans les établissements scolaires.
La ville de Goma, dans le nord Kivu, totalise aujourd'hui 6 jours depuis que le trafic routier entre Goma-Lubero via Rutshuru s'était arrêté.
C'est une situation qui serait consécutive à une disposition du M23 imposant une restriction du mouvement des civils dans toute la zone où sont déployées leurs positions militaires entre Kiwanja et Kibumba. Plusieurs sources dans la région nous l'ont confirmé. Et du coup, les passagers et marchandises en provenance du nord vers Goma reste bloqué à Rutshuru, comme nous dit ici Bernadette Nyangi.
La décision annoncée officieusement par certains cadres du M23 lundi dernier imposait la restriction du mouvement sur les résidents de Kiwanja, Rutshuru et d'autres agglomérations du territoire de Rutshuru occupées par le M23. Mais cette disposition a eu des répercussions sur l'ensemble des usagers de l'axe Goma-Rutshuru-Lubero et vice-versa, confirme l'Association des chauffeurs du Congo, ASICO à Goma. D'après des sources de la MONUSCO, une centaine de passagers et des véhicules contenant des marchandises voyageant de Butembo Beni pour Goma sont bloqués depuis lundi vers Rutshuru. Le secrétaire exécutif provincial de l'ASICO Goma affirmait qu'une cinquantaine de chauffeurs qui fréquentaient cet axe sont au chômage. De son côté, l'association de dépositaires de produits vivriers précise que certains produits qui venaient de cet axe se raréfient déjà. Du coup, 100 kg de maïs qui se vendait à 36$ revient maintenant à $40. Même chose pour les 100 kg d'écossais de manioc, autrefois à $30, revient maintenant à $38. Bref, cette situation sécuritaire a également un impact sur la situation économique de la province, principalement à cause des produits vivriers en provenance de ces différents territoires qui ne peuvent plus atteindre la ville de Goma. Goma, Bernardin Yagi, Radio Okapi.
Au Congo, l'économie de tous les jours, c'est l'affaire de tous. Chaque samedi à 12h30 heure de Kinshasa, Radio Okapi vous propose le panorama économique. C'est le résumé de l'actualité de la semaine. La vie des marchés, le développement des entreprises, l'équilibre du monde rural, les bonnes initiatives, une nouvelle tendance. Reportage sur le Congo qui bouge dans toutes les provinces. Le samedi de 12h30 à 13h, 30 minutes pour explorer le panorama économique de la RDC.
Autre information de la semaine en plus, bref, lundi, en territoire de Kabaré, au sud Kivu, nous parlions de la mesure de farine de manioc dont le prix est baissé du double. Il est passé de 1000 francs congolais à seulement 400 francs congolais et c'est la praticabilité de certaines routes des déserts agricoles et la disponibilité de transport en commun pendant cette période sèche qui a favorisé cette baisse de prix selon le chef du groupement. Entre-temps, la population craint de replonger dans la même situation d'impraticabilité des tronçons routiers pendant la saison des pluies qui s'annonce et qui aurait comme conséquence la hausse des prix des denrées de première nécessité.
Pendant ce temps, Kisangani, la rareté de la farine de froment s'est fait sentir dans la ville depuis bientôt un mois. Le week-end dernier, il n'y avait pas de pain sur les marchés. Et lundi, certaines boulangeries ont vendu du pain, mais en réduisant sensiblement la qualité et la quantité. Quelques rares sacs de farine de 25 kilos ont été vendus à 65$ le sac au lieu de 33,5$ il y a deux mois. Ces opérateurs économiques justifient cette rupture des stocks en farine de froment par l'état de délabrement avancé de la route nationale numéro 4 par laquelle la ville s'approvisionne.
Mardi, nous revenions sur la réunion de la Troïka stratégique de lundi autour du Premier ministre et un mot sur les finances publiques du pays. La situation au 23 août indique un déficit de plus de 71 milliards de francs congolais. Ce déficit est la différence entre les prévisions des 169 milliards en recettes et les dépenses qui se sont élevées à 240 milliards de francs congolais. La Troïka attribue cette situation à la paie des salaires de la fonction publique et devrait être résorbée avant la fin du mois en cours. En cumul annuel, cependant, le trésor public affiche toujours, selon la Troïka, un déficit de 92 milliards de francs congolais, meilleur que 95 milliards de francs congolais la semaine passée.
Bonne nouvelle pour les agriculteurs dans la plaine de la Rosésie, en territoire d'Ouvira, nous sommes au sud Kivu. La culture de riz a été intensifiée, la récolte est bonne. Les agriculteurs arrivaient à 9 tonnes par hectare comparativement aux années précédentes où ils étaient à 2 tonnes par hectare. Entre-temps, le président de la coopérative agricole de Louvungi qui livre cette information signale qu'ils ne savent pas écouler cette marchandise qui reste stockée dans les dépôts sans espoir d'avoir un marché.
200 millions de francs congolais, c'est le montant que le gouvernement provincial du Kasaï oriental a mis à la disposition du ministère provincial des travaux publics, infrastructures et reconstruction. Ces fonds sont destinés à l'achèvement des travaux sur différents chantiers de construction d'écoles et centres de santé en province. Rappelons que le gouvernement provincial s'était engagé lors de son investiture en 2007 de doter chaque territoire et ville de la province d'une école et d'un centre de santé.
Pendant ces temps, les enseignants du territoire de Dilolo attendent toujours le paiement des salaires des trois derniers mois. L'administrateur du territoire de Dilolo signale que ces enseignants menacent de ne pas reprendre l'école si la situation n'est pas décantée. Une situation consécutive au système de bancarisation.
Jeudi, le chef de cité de Kasumbalé, Sao Katanga, s'insurgeait contre la hausse des prix de la farine de maïs sur le marché de sa juridiction. André Kapampa a parlé d'un sac de maïs qui se vend actuellement entre 10 000 et 13 000 francs congolais contre seulement 8 500 il y a 5 mois. D'après lui, ce serait une conséquence de non-respect de l'exonération sur la farine de maïs. André Kapampa a appelé les commissionnaires en douane à respecter les textes légaux.
La conjoncture économique nationale et internationale a été mercredi au menu de la 8e réunion du comité des politiques monétaires de la Banque centrale du Congo. Sur le plan national, le CPM a révélé que la stabilité macroéconomique de la RDC demeure remarquable. À l'international, la zone euro a repris avec une croissance positive après 6 trimestres de graves perturbations. Explication avec vous, Daniel Taminzoni.
La reprise de l'activité économique économique dans la zone euro s'explique, selon le communiqué du comité de politique monétaire de la Banque centrale, par la baisse des prix des céréales sur le marché international. Quant à la bonne santé de l'économie nationale, le gouverneur de la Banque centrale du Congo et président du CPM la justifie par l'analyse des différents segments du marché national. D'abord, sur le marché des biens et des services, le taux d'inflation est en dessous de 1% contre une prévision annuelle de 4%. Par contre, le franc congolais a connu une légère dépréciation de 0,39% face au dollar américain sur le marché de change, tandis que sur le marché monétaire, aucune opération de refinancement des banques commerciales par la Banque centrale n'a été enregistrée au cours du mois d'août, indique le communiqué du CPM. Il s'est observé pendant ce temps une masse assez importante de liquidités dans le système bancaire. Le taux de croissance, lui, est redéfini à 7,8% suite aux réalisations de la production en fin juin dernier. 7,8% est bien supérieur à 7,2% de croissance en 2012, mais ce taux est inférieur à 8,2% initialement prévu pour l'année 2013. Actuellement, les réserves internationales représentent 8,9 semaines d'importation.
Matière première.
À Kisangani, plus de 9 kilos d'or pour une valeur de plus de 360 000 dollars américains exportés cette semaine par le comptoir Metallum Orum. C'était en présence de services étatiques, entre autres le CSC, le CSCAM, la DGRAD, l'OCC et la division provinciale de mines. Valentin Lissasso, directeur provincial du centre d'expertise, d'évaluation et des certifications de matières précieuses, présente le droit venant au service étatique concerné. Il est au micro d'Anselme Massoua.
De ces 364 752 dollars, j'essaie de tirer la taxe rémunératoire et le droit de sortie. La taxe rémunératoire est de 0,5% de la valeur, également aussi pour le droit de sortie. La taxe rémunératoire est répartie entre les CSC, les autres services des mines, la DGDA, la DGRAD et l'OCC. Par contre, pour le droit de sortie, là, c'est seulement la DGDA. Et en dehors de tout ceci, il y a aussi la taxe provinciale qui est calculée sur la valeur d'achat. La valeur d'exportation est toujours supérieure à la valeur d'achat. La valeur d'achat pour ces 364 aujourd'hui, la valeur de fixing, sa valeur d'achat est de 331,029. Donc, le comptoir aura à payer à la province les 3310 dollars. Ça, c'est la part de la province. Donc voilà un peu comment se passe l'opération.
Nous allons rester dans les matières premières et nous rendre au sud Kivu. Une maladie connue sous le nom de wilt bactérien dévaste des plantations de bananiers dans plusieurs territoires. Cette maladie, qui a commencé à Massissi dans le nord Kivu selon la FAO, a atteint le sud Kivu et continue sa propagation dans le nord Katanga. Les agriculteurs lancent un cri de détresse devant leur impuissance contre cette maladie, alors que la banane constitue l'un des principaux aliments de base de la province. Astrid Mujinga.
Le wilt bactérien était fléau pour les plantations de bananeraies dans la province du Sud Kivu. Plusieurs hectares de bananeraies détruits, des milliers de tonnes de bananes perdues, avec l'insécurité alimentaire qui pointe, c'est le triste tableau occasionné par cette maladie destructrice. Les agriculteurs ne savent à quel point se vouer, étant donné que la culture de la banane constitue l'une des principales productions de la province et sur le plan commercial et sur le plan alimentaire. Interrogé sur cette maladie, Marie Bansoma, ingénieur agronome à la FAO, a indiqué qu'il y a déjà un projet de lutte contre cette maladie, projet qui a commencé déjà dans la province du Nord Kivu et qui a renversé la tendance. Toujours selon lui, le projet est déjà dans le Sud Kivu, dans trois sites, à savoir Minova dans le territoire de Kalehe, Cheferi et Rubeng à Idjui et Katana dans le territoire de Kabari, et que ce projet va pouvoir s'étendre sur toute la province, stopper la maladie et relancer la production. Bukavu, Afrid Mujinga, Radio Okapi.
La loi de l'offre et de la demande règne sur le commerce du ciment gris dans la capitale congolaise. Selon des sources proches de la Direction générale des douanes accises, DGDA, les estimations du gouvernement congolais sur la demande du ciment gris s'élèvent à près de 33 millions de tonnes, tandis que l'offre n'est estimée qu'à 1 million de tonnes. Les importations qui devaient suppléer ce marché en termes de l'offre semblent s'estomper. C'est là principalement à cause de la levée de l'exonération sur l'importation de ce produit. Daniel Tamizoni nous en dit plus.
Le déficit entre l'offre et la demande est si grand. une offre pour 6 demandes selon les techniciens. C'est ainsi que pour suppléer à cette carence, l'importation du ciment gris, un produit stratégique, avait bénéficié de quelques exonérations en 2009, notamment la TVA et les autres taxes connexes telles que la taxe OCC, la taxe SCPT et FPI, pour ne citer que cela. Selon une source proche de la Direction générale des douanes et accises, ce sont ces taxes connexes qui ont été rétablies il y a peu et qui seraient à la base de cette flambée de prix du ciment. Bref, depuis que l'exonération sur le ciment est levée, les importateurs, semble-t-il, n'ont plus le cœur à l'œuvre, le marché n'étant plus rentable. Et du coup, c'est la rareté du produit sur le marché. La cimenterie nationale est aux arrêts. La cimenterie de Lukala n'a pas la capacité de couvrir tout le marché congolais. Le bout du tunnel est encore loin. Mais pourquoi le gouvernement a-t-il rétabli toutes ces taxes sur un produit dont la demande est énorme avec le boom immobilier ces derniers temps? Selon une source proche du ministère de l'économie, une étude sur l'importation de certains produits de première nécessité en RDC a été faite par le cabinet international MENA Finance. Il s'est avéré au terme de cette étude que les déclarations faites sur le prix d'achat ne reflètent pas la réalité. Le marché triangulaire prime, d'où il faut sévir. Mais entre-temps, le ciment gris devient de plus en plus rare sur le marché et tout ce qui est rare, dit-on, est cher. Et c'est sur cette nouvelle que nous allons refermer ce carnet de panorama économique de cette semaine. À la prise de son, Willem Lungamba, et devant le micro, Daniel Tambinzoni et François Kadiman. Nous avons eu tout le plaisir de vous présenter cette émission que nous vous convions de retrouver sur notre site internet www.radiookapi.net. Toutes vos suggestions, remarques et informations sont les bienvenues à so@radiookapi.net. Au téléphone, vous pouvez nous joindre au 081 890 44 50, ou encore au 081 890 63 73. Et déjà de lundi à vendredi, retrouvez Écho d'économie à partir de 18h15 heure de Kinshasa. Il nous reste qu'à vous souhaiter bonne fin de semaine et très bonne suite de programme sur votre radio.